ensemble, tous ensemble, ouais.
Du calme, ça bosse ici.
Bah, moi aussi, je bosse. Hein.
Ouais, bah, ouais, c'était bien la manif. Hein.
Ouais, bah, j'ai un peu mal aux pieds, mais enfin, on a défendu le service public.
C'est étrange d'être en marche pour contester Macron. Mais
ouais, t'as raison. Ouais. On devrait peut-être faire des sittings.
Ah, ça, c'est plus malin.
Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'écoutes là?
Bah, j'écoute l'émission de hier pour le débrief.
Mais Alex, on était en grève hier.
Bah, ouais, bah, du coup, j'écoute la playlist. Bon, franchement, je préfère encore ça que les chroniques de Guillaume.
Mais... Ah, bah, à ce point-là. Ouais.
Ah, bah, ouais, c'est-à-dire. Ouais.
Mais enfin, Alex, on s'en fiche de débriefer la playlist quand même.
Ah, ouais, mais ça, fallait le dire avant, hein, ça.
Non, bah, tu peux l'avancer là un peu, que j'écoute.
Bah, comme ça.
Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, avance encore un peu. On a passé ça hier. Ouais, encore, avance.
Non, on avance encore, voilà. Hein, voilà.
Non, reviens en arrière là.
Écoute, c'est joli, c'est une finlandaise qui fait des belles chansons.
Non, celle d'avant, c'était quoi?
Ça?
Non, celle que j'ai entendue entre les deux là.
Celle-là.
Alex!
Non mais comme vous étiez à la manif, moi je me suis dit je pouvais peut-être un peu égayer la playlist.
Mais c'est pas vrai, t'as pas fait ça quand même.
Bah, c'est une façon de contester, maître Michel Thor. Hein.
Ah ouais, bah moi je conteste tes goûts musicaux, ok. Bah fini la grève, tu remballes tes manifestations à la pop-pop au boulot. Hein.
Macroniste.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans la start-up du service public. Qui est donc la seule start-up à se mettre en grève quand il s'agit de défendre son incubateur.
Exactement.
Et voici les trois informations que nous avons ramenées de la manif d'hier. À quoi ressemble la contestation aujourd'hui? Hier, c'était la première grande manifestation de l'année où les ambitions sont un peu à la baisse puisqu'on ne réclame pas plus, on cherche juste à maintenir des acquis. Bah si, la preuve.
Je vous chasse! Vous n'existez plus pour moi!
C'est bon. Vous permettez? C'est mon balai.
Un tiers des oiseaux a disparu de nos campagnes en à peine 15 ans. Les pratiques agricoles et les dérèglements climatiques deviennent de moins en moins une abstraction. Comment avance la prise de conscience?
T'es au courant qu'ils ont découvert de la neige au pôle sud? De la neige? Dans le sud? De la neige? Dans le sud!
Ça avance en effet. À quoi ressemble le tourisme aujourd'hui à travers les attitudes des voyageurs et les photos qu'ils partagent sur les réseaux? Il semble que nous ne découvrons plus le monde, nous consommons le monde. Le tourisme colonise certains territoires.
Maintenant, ils viennent jusque dans nos bras, écraser nos fils et nos compagnes.
Et lui, il nous fait voyager à travers les événements de la presse régionale.
Exactement.
Alex Vizorek.
Bonjour Charlie Van Nacker et bonjour à toute l'équipe que je vous présente, équipe féminine. Aujourd'hui autour de la table, 17h20, c'est l'intelligence de cette émission et c'est sans doute pour ça qu'elle vient peu souvent. Il en faut du courage pour être la perle dans ce torrent debout. C'est vous Isabelle Sorande, bonjour.
Salut Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler d'objets volés.
Très bien, 17h30, celle qui réveille les morts, sorte de Viagra radiophonique, c'est vous Christine Gonzalez, bonjour.
Bonjour, suite à l'élection de Vladimir Poutine, j'irai à la rencontre de la communauté russe de l'au-delà. Da.
Ou vous faites les sons vous-même maintenant. Et à 17h40, a priori, son type d'homme, ce sont les bûcherons. Car il tombe immédiatement sous le charme de quelqu'un qui a la gueule de bois. C'est vous, Juliette Arnault. Et oui, vous ne l'aviez pas vu arriver.
Je suis dépitée.
Oui, moi aussi. De quoi on va parler?
J'ai choisi un livre en hommage à notre invité, donc je peux pas dire que c'est.
Suspense. À 17h55, celui qui a la voix aussi perchée que le contenu de ses chansons, Frédéric Fromet, viendra faire le troubadour de l'actualité.
Et je me tourne vers celui qui va faire ruisseler l'information. Vous vous installez 3 ans au Kenya pour photographier une famille de lions. À votre retour en France, vous publiez ces photos dans un livre et vous devenez photoreporter, notamment pour National Geographic, Paris Match ou Géo. Vous êtes le photographe du Paris-Dakar pendant 10 ans, puis vous créez une agence de photos aériennes. Vous publiez le fameux La Terre vue du ciel, vendu à 4 millions d'exemplaires, ce qui a permis notamment de créer votre fondation, Good Planet. Vous avez notamment réalisé Home ou Human, monté l'exposition 6 milliards d'autres, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Je suis, mais qui suis-je?
Oui, qui êtes-vous? Dites-le nous.
Nicolas Hulot.
Ah, génial!
L'émission!
Super, la belle question! Oh, dites donc!
Alex Vizorek, par Jupiter.
Monsieur le ministre, bonjour. Alors, est-ce que vous mettez vraiment la main aux fesses? On voudrait savoir, parce que ça commence à un petit peu... Ça commence un petit peu à impacter votre action. Yann Arthus Bertrand est avec nous pour notre plus grand plaisir. Yann Arthus Bertrand.
Toi, c'est difficile à dire.
C'est vrai, c'est plus difficile que Nicolas Hulot. Vous venez pour plusieurs actualités, notamment cette préface du livre « Ça chauffe pour la planète » paru chez Gallimard avec « Cartooning for Peace » et d'ailleurs dont les bénéfices Peace vont à Cartooning for Peace, car on peut rigoler avec
tous les dessinateurs emprisonnés, voilà, qui peuvent pas s'exprimer. Voilà.
C'est des dessinateurs donc, du monde entier qui font des dessins sur une thématique qui est votre marotte, évidemment, l'écologie. Et votre préface est titrée « Si on continue, on va tous crever ». Voilà, c'est clair, c'est net. Est-ce que rire peut nous permettre de prendre conscience, justement? Parce que, comme vous le dites, en 40 ans, on n'a pas tellement avancé.
Je sais pas, j'ai plus envie de rire là-dessus, c'est drôle, je suis complètement...
Oui, c'est pour ça qu'on a dit ça tout à l'heure.
Je suis triste, je suis atterré. Moi, je m'occupe d'écologie et d'environnement depuis que j'ai 20 ans. La biodiversité me passionne et j'étais un fou des animaux. J'ai parti étudier les lions quand j'avais 30 ans. Souvent, c'est ma vie, quoi. Et aujourd'hui, tout s'écroule autour de nous, quoi. Faut dire la vérité. On parlait de Nicolas Hulot, il a fait l'autre jour un très bon discours à l'Assemblée nationale. Tout le monde s'en fout, quoi. Quand on vous parle de la disparition des oiseaux, quand on parle simplement de la disparition de la biomasse des insectes. En Allemagne, il y a une enquête qui a été faite où 80% des insectes ont disparu. Ça veut dire quelque chose. C'est vrai qu'avant, quand on conduisait sa voiture, on partait le week-end avec les pare-brise découverts d'insectes écrasés. Aujourd'hui,
c'est déjà nous qui les tuions.
Mais derrière tout ça, il y a quoi? Il y a la nourriture des oiseaux, il y a les abeilles, il y a la pollinisation. C'est hyper important. Quand le dernier rapport des 15 000 scientifiques qui a fait la une du Monde il n'y a pas très longtemps, 15 000 scientifiques de 150 pays, c'est pas ridicule. 15 000. Derrière tout ça, on parle de la fin du monde. On parle de la sixième extinction de la vie sur Terre, comme si on parlait d'une série qui allait passer le soir à la télé.
Comment vous expliquez qu'il y a encore des climato-sceptiques, alors?
Non, il n'y en a plus. Ça n'existe plus, ça. Aujourd'hui, on est tous...
Il y en a important, c'est Trump.
Non, mais il y a un peu Trump. On est tous un peu Trump. On est tous en vue de faire cette lâcheté pour notre confort de continuer comme avant. Cette civilisation, ce capitalisme dans lequel on vit. On veut tous cette croissance, on veut tous être payé plus cher, on veut tous avoir... C'est en train de détruire la planète. Le problème, c'est qu'on était 2 milliards quand je suis né. Aujourd'hui, on est 7 milliards 400.
Ah, c'est de
et
votre
tout le monde
alors.
Veut vivre. Et voilà, c'est un peu, oui, c'est un peu. Et on est devant une espèce d'interrogation. Comment changer cette civilisation?
Et les dessinateurs, eux, appuient là où ça fait mal. Ça fait partie de la satire et ça explique.
Depuis très longtemps, parce que les gens comme Rezer, voilà, les gens comme
Choron.
Choron, Harakiri, toute cette bande-là, depuis La Gueule Ouverte, quand même, c'est un journal dont le sous-titre était On annonce, c'est le seul journal qui annonce la fin du monde dans les années 70.
Ouais.
Voilà, 72.
Et dans Charlie Hebdo, le meilleur de Charlie Hebdo aujourd'hui, c'est encore ces pages environnement.
Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'on a voulu. Bon, bien sûr, on a été un petit peu loin là-dedans, mais ces dessinateurs ont vraiment. Avaient la prise de conscience là-dessus bien avant tout le monde.
Il y a des dessins, je vais en citer deux. Il y en a un de Glé au Burkina Faso. Il y a un homme qui regarde comme ça des whisky, des champagnes, et puis il y a un petit jeune qui arrive et qui a l'air d'un dealer qui dit j'ai plus rare mais c'est plus cher et c'est une bouteille d'eau qu'il a dans sa poche. Et puis il y en a un autre, comme vous disiez, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme et on voit un scientifique qui a le bras très musclé tellement il tire cette sonnette d'alarme. Donc ils sont très cyniques ces dessins quand c'est cette thématique là.
Oui, on est tous impliqués et tous responsables. Et voilà, je crois qu'il ne faut pas laisser aux ONG et aux politiques le soin de se battre pour l'environnement. C'est à toi, à moi, de le faire immédiatement, tout de suite.
Et bien, ce sera l'objet de notre émission avec vous, Yann Arthus Bertrand. Donc, je rappelle ce livre, Ça chauffe pour la planète, paru chez Gallimard avec Cartooning for Peace, dont vous écrivez la préface. Et puis, comme vous ne vous découragez pas, Yann Arthus Bertrand, et que nous non plus, j'annonce que ce week-end, l'eau dans tous ses états, ça se passe au domaine de Longchamp, avec votre fondation.
Merci, oui.
Good Planet avec des conférences, des projections de films, des ateliers créatifs. Renseignez-vous sur
c'est gratuit,
le site. Ouais. Et voilà, sur le site de la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand qui est avec nous jusqu'à 18h pour notre plus grand
toute
plaisir.
Toute l'équipe de la fondation, c'est pas Yann Arthus Bertrand.
Ah
c'est
oui,
les
bien
20
sûr.
Personnes qui travaillent là-bas.
Mais oui, car c'est le collectif qui va changer les choses. On va en parler dans cette émission du collectif.
Lord's word, he said vengeance is his, but I'ma do it first. I'm gonna handle my business in the name of the law. Oh, now if he made you cry, oh, I gotta know if he's not ready to die, he best prepare for it. My judgment's divine, I'll tell you who you can call. You better call the police, call the coroner, call up your priest, and the warrior.
but my wrath will come down like a cold rain, and there won't be no shelter, no place you can go. Hey, 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 it's time to put your hands up, time for surrender. I'm a vigilante, my love's defender. You're a wanted man, and everybody knows. Yeah, you better call the police, call the coroner.
Did That To You, John Legend sur France Inter, en compagnie de Yann Arthus-Bertrand, qui nous dit « Agissons ». Ah bah oui, parce que et c'est ça qui nous sauve, c'est d'agir.
Non, mais je crois qu'il ne faut pas laisser aux ONG, aux politiques, le soin de défendre l'environnement. C'est à moi de le faire, et toi qui m'écoutes, on a tous, voilà. on a tous un combat à mener, et aujourd'hui, ça devient urgent.
Et pour endurer, Yann Arthus-Bertrand, Alex.
Eh bien, il y a Isabelle Sorrente, il y a Juliette Arnaud, il y a Christine Gonzalez, et Frédéric Fromet nous rejoindra en fin d'émission.
Ouais, et un peu d'information, oui. C'est parti.
Jean Tizio, Saïtse, Guaïta.
Le journal de presque 17h17.
Mais qu'est-ce que c'est que ce patacouic ?
Je sais ça, moi je vous montre ce que s'appelle Mel aussi.
Et on commence par les titres.
Oui, hier, Nicolas Sarkozy est venu se défendre aux 20h de TF1 suite à sa mise en examen.
Oui, et contre toute attente, il est venu faire la promotion de Mediapart, hein, lui qui tient tant à la liberté de presse.
Selon une étude publiée hier dans la revue Scientific Reports, la gigantesque décharge flottante du Pacifique ferait trois fois la taille de la France et contiendrait 80 000 tonnes de plastique.
C'est simple, il y a plus de plastique dans l'océan Pacifique que dans l'ensemble des habitantes de la Côte d'Azur.
Est-ce qu'il y aura des brèves ?
Oui, et tant qu'on ne me mettra pas en garde à vue, je continuerai à faire des brèves.
Et donc hier, Nicolas Sarkozy sur TF1.
C'était sûr que c'était pas Plenel.
Vous fumez, monsieur ?
Non, non.
Ah bah, vous voyez, c'était pas lui.
Et puis, tant mieux qu'il soit allé sur TF1, car il a des soutiens. Écoutez Jean-Pierre Pernaut au sortir d'un reportage sur Sarkozy la veille.
On montre toujours des images de poignées de main entre Nicolas Sarkozy et le colonel Kadhafi. On pourrait vous montrer aussi, mais on n'a pas eu le temps, les images des frappes aériennes françaises qui ont abouti à l'échec et à la destruction du régime de Kadhafi.
Il est gentil, mon Jean-Pierre. Bah oui, sans déconner. Mais le plus beau soutien, évidemment, pour Nicolas. C'était hier soir pendant l'interview sur le compte Instagram de Carla Bruni. Alors, Charline va nous lire ce message in extenso.
Je suis fière de toi, mon amour. Comme tu es clair, comme tu es droit, comme tu es fort, et comment tu restes debout envers et contre tout et dans toute cette boue. C'est le vrai texte. Écoute.
C'est le vrai texte.
Je continue. Sono fiera di te amore. Comment sei forte? Comment sei chiaro? Comment sei resistere a tutto questo fango?
Toujours le vrai texte.
C'est toujours le vrai texte. Je continue.
Un mot est échangé.
I'm proud of you, my love.
Si, si.
You are righteous, clear and strong. I'm proud of your dignity against all odds and of how well you always stand straight no matter how low the strikes can be.
Putain, c'est beau, putain, c'est beau.
Tout tourneboulé. Il y avait d'autres langues
Elle a hésité à foutre en libyen et puis elle s'est dit non, c'est con.
Alors, autre soutien inattendu ce matin.
Oui, ce matin. Vendredi matin, c'est mon petit bonheur, c'est la chronique humoristique de Luc Ferry sur LCI.
Le mettre en garde à vue, je suis désolé, mais c'est quand même humilier la France entière.
Mais oui, moi je me suis senti hyper humilié par la garde à vue de Sarkozy.
Qu'est-ce qu'il va nous dire, c'est à un moment, il s'avère que Nicolas est vraiment coupable.
Ça va un peu vite. Et il était enfant ce matin, mon Luc. S'il parle de toute l'actu, il a parlé de l'élection de Poutine.
Je pense qu'il est très très bien élu, que malgré tout c'est une vraie élection démocratique. Alors il est bien mieux élu que la dernière fois. Alors qu'il y ait des tricheries en Russie, il y en a aussi au PS ou ailleurs.
Et voilà, la Russie est donc une démocratie comme le PS, voilà.
Mais vous fumez, monsieur. Parlant Parti Socialiste, écoutons ceci.
Casse-toi, culé.
Oula, Bertrand Cantat a voulu reprendre sa tournée.
Non, c'est Olivier Faure, le nouveau secrétaire général du PS.
D'accord, il était où donc
Il a voulu aller à la manif d'hier.
Ah oui, il n'était pas bien.
Allez, les brèves.
Allez, hein, deux brèves histoires. Une enquête révèle qu'Hitler était végétarien. Si, c'est surprenant, mais de là affirmer qu'Émeric Caron serait néo-nazi, ça, c'est un pas que je ne franchirais pas, évidemment.
Allez, la dernière.
La dernière, Amiens, un automobiliste sans permis tente de se faire passer pour son frère. C'est quand le mec a dit qu'il s'appelait Arnaud Magimel que les flics ont eu la puce à l'oreille.
Merci Alex Vizorek, vous êtes en spectacle ce week-end.
Oui, je me balade, je vais à Mayenne.
Samedi et dimanche, j'ai l'information, vous êtes à Coutances en Normandie.
Mais bien sûr, je le savais.
Je vous flique. Et revenez lundi surtout.
Promis.
Nous sommes en compagnie de Yann Arthus Bertrand. On parlait de collectif de mobilisation pour la planète où elle peine à se faire sentir. On ne bat jamais le pavé pour la planète, pour d'autres choses. Mais parlons-en justement, hier c'était la première grosse mobilisation de l'année avec les cheminots et les travailleurs des services publics. Donc les privilégiés et les feignasses dans deux cortèges contre les réformes annoncées par le gouvernement et pour le maintien des acquis sociaux. Alors il fut un temps où on réclamait plus de choses, des protections sociales, des augmentations, etc. Maintenant on s'efforce d'essayer tant bien que mal de les maintenir et pour ça la meilleure forme, est-ce encore le collectif ? Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter.
Ça marche toujours.
Wouh, avec Nadine Morano et tous les amis de Nico, c'était la belle époque du clip des jeunes de l'UFP qui avait fait ce qu'on appelle un lip dub et qui est resté dans l'histoire. Alors Yann Arthus Bertrand, vous qui dites toujours faut agir pour être heureux.
En parlant des grèves, là, ce qui est assez étonnant, c'est que les métiers peut-être qui sont les plus importants pour nous, quoi, ce sont les agriculteurs, les infirmiers, l'éducation nationale. Mm-hmm. C'est quand même les gens les moins bien payés.
Oui.
Et ça, c'est incroyable en France. Et je disais le bouquin de Martin Hirsch sur l'hôpital à cœur ouvert. Il explique quand même que les infirmiers en France, on est au niveau de la République slovaque ou de la Hongrie. On est bien, c'est absolument incroyable.
Ouais.
Que les gens peut-être qui sont les plus indispensables, les plus importants, sont les moins bien payés. Il y a une espèce de basculement de salaire qui est en train de se faire en ce moment entre...
Et justement, si ces gens sont confrontés à des problèmes du quotidien et de survie, parce qu'il en va aussi de leur santé, alors qu'ils sont censés gérer la nôtre aussi, nous aider, est-ce que ça explique pas aussi le fait qu'une fois que ça ne sera pas réglé, c'est difficile de ensuite descendre dans la rue pour le climat qui passe malheureusement au second plan.
Mais je me souviens, on avait fait une manifestation avant Copenhague, avant la COP. On devait être 200 place du Trocadéro pour le changement climatique. Mmh. Mais je pense que, par exemple, pour parler des pesticides, j'adorerais qu'il y ait un énorme rassemblement, mais on soit des millions, quoi. Mmh. Et je pense que là, évidemment, le Roundup, il est interdit dans l'heure qui suit. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de discuter avec les agriculteurs, les paysans. On parlait de la disparition des oiseaux. On a tous parlé aujourd'hui.
C'est le sujet 2, ça.
On en parlera tout à l'heure.
Mais c'est-à-dire que vous croyez quand même encore au collectif. La manifestation, c'est quand même les rares fois où on impose, nous, les choses au pouvoir, où on impose le tempo à l'agenda du pouvoir.
Finalement. On est arrivé à un tel point qu'il faut tout essayer, de tous les côtés, les politiques, les ONG, les associations, l'engagement. Je crois qu'il est beaucoup trop tard d'être pessimiste. Il faut y aller. On doit tous y aller. On ne va pas pleurer tout seul dans le noir, comme disent les Africains. Il faut allumer une lumière.
Voilà. Il faut un leader, quand même, pour ça.
Mais je ne sais pas s'il y a besoin de leader.
C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un qui donne envie aux autres de le suivre dans la rue, non ?
Je pense que quand tu parles de la survie, de l'avenir de tes enfants, tu es assez grand pour le faire tout même,
et puis
sans leader.
Chacun
tu dois être le leader de ta
soi.
Famille, je pense, le leader de ta vie. Non, il n'y a pas besoin d'avoir une idole là-dessus, c'est quand même... le rapport des 15 000 scientifiques, je dis, si vous ne l'avez pas lu, essayez de retrouver ce rapport, lisez-le, c'est quand même inquiétant.
Pour finalement, les idoles et les leaders, c'est peut-être une vieille façon de fonctionner, et aujourd'hui, la contestation et l'action, elle se fait parfois au niveau plus local ou individuel.
Oui, on ne va pas attendre le Gandhi, le Mandela.
On est d'accord, Yann Arthus Bertrand, on ne va pas les attendre pour changer les choses, c'est sûr. Isabelle Sorrente est avec nous.
Oui, Charline, alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'objets perdus et volés. L'autre jour, j'étais au Monoprix. J'avais posé mon panier entre le rayon légumes et le rayon pâtes avec mon parapluie au fond du panier et le temps que je revienne avec des avocats assez durs pour lapider quelqu'un, nouvelle agriculture. Des avocats qui au passage pourrissent tout d'un coup. Ils sont durs pendant 3 jours et le 4e jour c'est du guacamole. Bref, le temps que je revienne jusqu'à mon panier, je vois une petite vieille adorable qui se penche l'air de rien et qui prend mon parapluie et qui le met dans son panier à elle. Oui, Juliette, c'est vrai.
Alors,
je me dirige vers elle quand même parce que je me dis que ça n'est pas parce qu'elle est vieille que je peux la laisser me voler sans rien dire. Même si dans un sens, ça me fait plaisir de voir une vieille dame anarchiste, en fait, qui vole les parapluies des gens. Ouais, ça me fait plaisir. Alors, je vais vers elle et je lui dis, « Madame, vous m'avez pris mon parapluie. » Et elle me dit, oui, je sais, mais j'ai perdu le mien.
Oh,
et, si. Et je lui dis, Christine, cette phrase si attendue, si qu'ancienne, si prévisible au fond, mais vous vous rendez compte si tout le monde faisait comme vous. Et la petite vieille me regarde d'un air amusé, comme si la morale qu'ancienne ne l'impressionnait pas du tout. Et puis elle me dit, peut-être que ça serait bien. Et on s'est mis à rire, et après lui avoir laissé mon parapluie, j'ai pensé aux objets que je perds et que je vole sans m'en rendre compte. Ce sont les briquets et les stylos. Qui dit soirée dit cigarette et dit briquet. Vous débarquez chez vos amis avec un briquet bleu et vous en repartez avec un briquet rouge. Rien d'extraordinaire en apparence, mais quand on y réfléchit, cela veut dire que la soirée s'est bien passée. Vous avez emprunté du feu, vous en avez donné. Derrière la disparition du briquet et sa réapparition ailleurs, derrière ce que les comptables appellent un vol et une perte, il y a une bonne soirée. Ce n'est pas rien. Mon deuxième objet perdu volé, c'est le stylo de Nathalie, que je remercie. Et là, j'avoue que j'ai plutôt tendance à prendre qu'à laisser. J'avoue que je retrouve dans mon sac des stylos qui ne sont pas les miens, pris à France Inter, par exemple, ou sur la table d'un ami ou ailleurs.
Oh, c'est vous.
Je ne sais même plus. Ah oui,
vous
non,
créez
non.
de la dette.
Je crée de la dette. Et ce qui est intéressant, c'est que ces objets furtifs ont une signification profonde. Se protéger de la pluie, donner du feu, écrire. Ils sont hautement symboliques, ces objets-là. Se protéger, allumer, écrire. Ce sont plus des verbes que des objets. Alors peut-être que la petite vieille a raison, peut-être qu'il faut accepter de les perdre et de les voler parce que ça n'est pas l'objet qui compte, c'est le jeu, au sens de l'espace dans lequel les choses circulent, le jeu du désir et des paroles, le jeu de l'eau et du feu qui compte plus que le briquet, le stylo ou le parapluie. Cela veut dire que la grille du vol et de la perte, la grille du bilan, la grille économique ne raconte pas la bonne histoire. La grille économique nous enferme dans une histoire qui a l'air vertueuse mais qui n'est pas morale. Alors, bien sûr, il existe aujourd'hui des sociétés qui proposent des parapluies connectés hein, pour que vous puissiez les géolocaliser et ne plus jamais les perdre. Mais quel intérêt ? La culture de l'avarice et de la mesquinerie est-elle la seule vocation de la technologie ? Cette pseudo-exactitude est la même qui comptabilise à l'euro près les indemnités des chômeurs. C'est la même qui accuse les pauvres de la faillite de la sécurité sociale et c'est la même qui remplace les personnes par des serveurs vocaux. La même qui détruit la nature, la même qui gère les stocks et compte les flux. Mais être humain n'est pas qu'une histoire de flux et de stocks. Alors continuez à voler les briquets, les stylos et les parapluies. Nous sommes indéterminés, nous sommes joueurs, nous sommes libres.
Oui, oui voilà. Merci Isabelle Sorand, que c'est bon, que ça fait du bien.
Voilà, on appelle la désobéissance.
Oui, mais la désobéissance civile, ça commence par là, mais bien sûr. Merci beaucoup Isabelle Sorand. Non, mais c'est fou comme ça nous galvanise. Ça y est. Et vous savez quoi, en plus derrière, c'est Bernard Lavillier. Alors je peux vous dire qu'il incite à l'action. Hein. Avec d'Arthus Bertrand là, oh là là, le grand soir c'est
tous
ce soir,
dans la rue, tous dans la rue.
Bain d'acajou, barretto magnifique, les yeux fermés sur un transatlantique. Joue. Rêve de Ravel, de Mozart et de France. Combo cuivré, mais c'était pour la danse, pour la danse, pour la danse. Danse cambrée des tambours de Dakar, tourbillonner les pagnes du sabbat. Je rêve, je rêve. Dundungay rose, respecté de partout, des présidents. Intime de Youssou, Youssou. Si jamais tu te casses, si jamais tu te tires ailleurs, si jamais tu te lasses de ma voix et de ma chaleur, si jamais tu t'en vas sans un moment douceur, je serai sur tes pas, je suivrai ton odeur, ton odeur.
Bernard Lavillier avec nous sur France Inter, mais surtout Yann Arthus Bertrand, notre invité. Et il y a un film, votre prochain film, un peu sur le modèle de Human, sera Woman, va sortir en 2019. On est déjà très curieux.
Ça fait deux ans qu'on est dessus et on fait 3000 interviews dans le monde. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans le monde d'aujourd'hui? Et je peux vous dire que c'est un film qui a changé ma vie. D'abord, j'ai changé d'avis sur ma mère. Sans doute, c'est incroyable. Je me suis aperçu de choses et je le dis avec émotion parce que je ne l'ai sans doute pas assez aimé. Et pas assez en tout tout cas reconnu, sur ma femme, sur mes sœurs.
Ouais.
Voilà, c'est un film sur les injustices, sur la pauvreté, parce que 80% des gens les plus pauvres du monde sont des femmes. Sur
ouais. Et 90% de leurs revenus vont à leur foyer.
Oui, quand une femme travaille, elle donne 90% de son revenu à sa famille, alors qu'un homme donne 30%.
Il y a une femme dont vous vouliez nous parler, parce que vous avez une anecdote amusante.
Oui, je trouve qu'il y a la sœur Marie-Jo, qui est une bonne sœur incroyable, je vous donne l'adresse, c'est important, 19 rue de Tanger, elle s'occupe des réfugiés. Et alors, vous savez, les réfugiés, ils sont très au courant par WhatsApp, donc ils savent où aller. Donc quand ils arrivent à Paris, ils vont directement chez elle. Il y a une petite boutique où elle donne des vêtements. Il y a la queue toujours devant. Puis le jour, elle m'appelle, Yann, tu sais, j'ai plus de vêtements. C'est le moment où il faisait très froid. Alors moi, je prends mon listing, le listing complet qu'on a à la fondation, et j'envoie 20 000 mails en disant voilà, la sœur Marie-Jo, rue de Tanger. Je répète l'adresse, 19 rue de Tanger, dans le 19e, a besoin de vêtements. Et puis moi, je suis à la fondation Chirac, donc Claude Chirac m'envoie un petit mail, me dit je m'en occupe, t'es sympa, avec beaucoup d'autres gens qui me répondent. Et puis alors la sœur Marie-Jo m'appelle, me dit tu sais, il y a une voiture officielle qui est arrivée. Très élégante, avec une cocarde, et qui nous a donné beaucoup de costumes et de pullovers. En fin de compte, tous les vêtements de Chirac aujourd'hui sont portés par des réfugiés donnés à la porte de la chapelle. Et je trouve l'histoire magnifique. Génial, et tout alors. Ça a été nettoyé dans des enveloppes, et donc il y avait des dizaines de vêtements donnés pour les réfugiés. Et alors elle me dit, mais c'est qui? Je ne t'occupe pas, c'est pas grave, c'est quelqu'un d'important, elle m'appelle. Donc je trouve ça l'histoire magnifique.
Et l'info, c'est que Chirac est à poil en ce moment. Mais vous suivez en shopping.
Voilà, moi je trouve ça génial. Ah, on sait que les vêtements du président de la République c'est sont vrai. Portés aujourd'hui pour des réfugiés, porte de la chapelle.
C'est
symboliquement, c'est une histoire.
Alors on ne sait pas si c'est Robert.
La sœur Marie-Jo, si vous voulez l'aider, je répète l'adresse, 19 rue de Tanger dans le 19e. Elle a toujours, et en ce moment, elle a besoin de lait pour bébé et de couches. Voilà.
Donc, très bien. Voilà, eh bien voilà. L'appel est passé. Yann Arthus-Bertrand. Christine Gonzalez, elle, nous vient pas de Tanger, mais de Suisse. Avec vous parlez avec les morts.
Quelques costards aussi.
Ah oui, c'est vrai?
Non, ceux de la Russie par contre. Parce que la Russie est au cœur de l'actualité cette semaine avec la victoire écrasante, on le sait, de Vladimir Poutine. Que connaît-on réellement de la Russie à part Tolstoï, Dostoïevski et les frères Bogdanov? On a entendu toute la semaine des observateurs, spécialistes, correspondants, politologues vous raconter la Russie d'aujourd'hui. Alors moi, je vous propose d'entendre en exclusivité une partie de la communauté russe de l'au-delà s'exprimer sur l'élection de Vladimir Poutine, à commencer par le peintre Marc Chagall. Bonjour. Alors vous êtes né à Vitebsk.
Vitebsk? C'est né en Russie.
Alors aujourd'hui, c'est la Biélorussie, mais effectivement, à l'époque, c'était l'Empire russe. Une réaction peut-être suite à l'élection de Poutine?
C'est pas facile.
Pas facile de quoi? De réagir?
Cracher quelqu'un dans la figure, je trouve ça pas intéressant.
Ah, mais c'est pas ce que je vous demande. Hein. Moi, je veux juste savoir ce que vous pensez sincèrement de Vladimir Poutine.
C'est très compliqué. Je peux pas vous répondre.
Vous risquez rien, vous êtes déjà mort. Hein. Ça compte pas. Bon, je me tourne vers un artiste un peu plus engagé que vous, le chanteur Jean Ferrat, moitié russe, hein, par son père né à Krasnodar.
Ah mais absolument, absolument.
Qu'est-ce que vous inspire la Russie d'aujourd'hui?
Il faut tout changer.
C'est-à-dire?
Nous sommes dans ce système que je trouve tout à fait dégueulasse.
Vous êtes plutôt anti-Poutine, hein, si je vous comprends bien.
Il ne s'agit pas d'anti...
Ah, je pensais.
Pourquoi? À cause de mes moustaches?
Non, je pensais plutôt à vos valeurs de liberté pour lesquelles vous vous battiez à l'époque.
Il y a une censure qui s'exerce incontestablement.
Et c'est elle qui aurait mené, vous pensez, à la victoire écrasante de Poutine?
Mais oui, mais c'est une question de conditions économiques aussi. Faut pas parler trop.
Chagall, vous êtes de retour.
Marc, oui.
Oui, Marc Chagall, pardon. Il ne faut, faut pas du tout être paranoïaque, hein. Vous savez, vous risquez vraiment rien du tout. Dites-nous plutôt ce que vous pensez de l'impuissance des opposants au pouvoir.
Oh, vous posez des questions formidables aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mon Dieu?
Je ne sais pas pourquoi il a peur comme ça. Ouais, franchement, on n'est pas en train de dire du mal de la Russie. Hein.
Et Dieu sait que notre pays est aimé dans le monde entier.
Mireille Mathieu.
Oh, déjà?
C'est bien vous?
Bonjour.
Mais je vous ai pas demandé votre avis sur Poutine, à vous.
Il fait beaucoup pour tout ce qui se passe dans le monde.
Non, mais sérieux, vous avez rien à faire là. Hein.
Fast be a person who needs.
Non, Mireille Mathieu, je vous demande de quitter cette conversation. Et puis surtout, vous êtes très vivante. Vous n'avez absolument rien à faire ici. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. J'ai le grand honneur d'accueillir celui qui a décrété la mort de l'URSS, qui a chassé Gorbatchev du Kremlin. Boris Eltsine, bonjour.
No, привет.
Alors, comme je suis parfaitement bilingue, je vais vous traduire. Boris Eltsine, Poutine vous doit tout, hein, c'était votre poulain. Est-ce que vous êtes fier de lui depuis là-haut?
Quel politique поворот?
Je suis fière de mon petit poussin d'amour. Mais il devrait se détendre. Et boire un peu moins d'eau. Boris Eltsine, le climat social a beaucoup varié hein, sous les présidences de Gorbatchev, de vous, de Poutine ou de Medvedev. Qu'est-ce qui guide, selon vous, ces fluctuations?
Vodka.
Vodka. Okay. Je reviens à vous, Jean Ferrat.
Moi?
Oui, vous.
Qu'est-ce que vous voulez?
Écoutez, vous êtes le seul à peu amener de la mesure à cette discussion.
Ça ne mène à rien.
Bien, je fais ce que je peux. Seulement entre Chagall qui ose rien dire, Eltsine qui est bourré, et puis l'autre là.
Moi, je suis pour que tout le monde s'aime.
Mireille, Mathieu, je vous ai déjà dit. Non. Non.
А то это смены политической системы.
Pardon?
Il dit que Gorbatchev était plus facile à faire taire. Eltsine, buvez un coup, ça vous détendra.
Vodka.
Voilà, vodka. Et il a l'air fatigué. Hein.
Comment, fatigué?
Ah, Marc Chagall, vous tombez bien. Ça commence à être un peu tendu dans l'eau de la soviétique.
Tout le monde est mes amis.
Tout ouais. Comme Poutine, je suppose.
Ah oui. J'aime de bons gens.
Bien, merci à tous. C'était un plaisir de vous recevoir.
Et мы это вслух говорили.
Oui, je salue bien Charline et toute l'équipe. Belle soirée. Спасибо, despacito.
Oui, ah, vous avez bien dit. Merci.
Смена.
Merci Christine Gonzalez. C'est fou à quelle vitesse vous reconnaissez les voix de ceux qui entrent comme ça.
Oui, dans c'est, ce c'est des années d'expérience.
C'est incroyable. Avec les archives de l'INA, bien sûr. Merci Christine Gonzalez de la Radio Suisse qu'on embrasse très très fort. Restez avec nous et nous sommes avec Yann Arthus-Bertrand et on va parler de ce sujet qui nous touche tous de très 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 près, de plus en plus près. Le printemps 2018 s'annonce silencieux dans les campagnes françaises. C'est l'intitulé d'une recherche scientifique qui prouve que les oiseaux de nos campagnes disparaissent à une vitesse vertigineuse. Et c'est pas à cause de ceux qu'on croit, ceux-là.
Écoutez, là, ça c'est une mugilette des bois. Petit oiseau, là, c'est bon à becquer, là, coucoule, là, écoutez.
Ah non, ça c'est un galoupio, ça.
Oh, je prends un galoupio, tu rigoles quoi?
Il dit coucoule pas, il craquette.
Bah non, mais je te dis que c'est une mugilette.
C'est un galoupio, la rigueur, une pistourelle des prés.
Je t'en dis que moi, écoute. C'est... Ah bah non, c'était Gérard.
Les inconnus, bien sûr. Alors, moins de 60% de moineaux friqués depuis 10 ans, un tiers d'alouettes des champs disparus en 15 ans. Yann Arthus-Bertrand, tous ces alors, dérèglements climatiques, tous les pesticides, tout ce dont on a parlé au début de l'émission, il y a un côté qui nous semble un peu abstrait, même si vous vous le rendez concret quand vous prenez des photos aériennes, il y a des choses qu'on voit, des comparatifs. Là, on a l'impression, quand on parle des oiseaux qui sont dans nos jardins, dans nos campagnes, c'est un truc qui nous touche encore plus, j'ai le sentiment. Ce matin, dans le bureau, quand on a parlé de ce sujet, tout le monde a fait « Oh là là, mon Dieu !»
Oui, parce que c'est ce qui nous entoure, c'est la vie, quoi. C'est drôle que vous parliez du Printemps silencieux, parce que c'est un livre très connu, qui est peut-être le livre le plus connu, pas très connu en France. Une fille qui s'appelait Carlson, qui était une scientifique américaine, qui, dans les années 60, a dénoncé les DDT. Le DDT. C'est grâce à elle que le DDT a été interdit, et elle s'est fait attaquer par tout le monde. Oui, oui, oui. Oui. DDT qui était le... Vous savez, quand on était gosse, on mettait du DDT sur la tête contre les poux, quoi, par exemple. Oui. On a tous connu ça, c'était le produit miracle. Le produit miracle contre les insectes. Et elle a fait un livre qui s'appelle Le Printemps silencieux. Ça a été un boom énorme. Elle a été énormément attaquée. Et aujourd'hui, on en est au même point. Quoi. Oui. 50 ans après, c'est exactement la même chose. Oui. On s'aperçoit que les oiseaux disparaissent. Mais on le savait tous. On sait très bien que les pesticides sont faits pour tuer et que voilà, que ça a tué les insectes et derrière ça tue les oiseaux. Alors on dit même que les fleurs aujourd'hui, il y a un problème avec les fleurs, il y a moins de nourriture pour les oiseaux. Alain Beaugrand-Dubourg me disait 80% des hirondelles ont disparu de France, on ne sait pas pourquoi.
80%.
Mais c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Alors je crois qu'il faut donner à manger aux oiseaux, hein, si vous avez
voilà, dans les jardins des nichoirs, tout
voilà, ce voilà. Ou planter des arbres fruitiers dans nos jardins.
Ouais. Et c'est quelque chose qui m'atterre, que c'est sidérant qu'on n'ait pas été capable. On le savait tous, mais on le sait, c'est pas nouveau,
sûr,
ça, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est dit, redit par les écolos.
Et le chiffre vient quantifier les choses.
Voilà, voilà. Ouais. Alors, on parle des éléphants qui disparaissent,
des
ours blancs,
ouais,
et là, c'est chez nous.
Oui. C'est chez nous. La mésange, le rouge-gorge.
C'est nos amis, c'est les gens
qui avec qu'on observe comme ça, avec nos petits livres.
Avec qui on a été élevés, quoi. C'est la vie autour de nous, en fin de compte.
Yann Arthus Bertrand avec nous, et à côté de vous, il y a Juliette Arnaud, qui nous emmène dans la littérature.
Oui, et alors avant, on va faire un petit passage par la Thalaïe. C'est une pub que j'ai vue au moment où je lisais le livre dont je vais vous parler. Et donc, on voit la pub commence, on voit des petits visages d'enfants pâlis et mornes, et hypnotisés, assommés par divers écrans. Et là, la pub dit « Et si on se déconnectait ?» Moi, dans ma tête, je me fais « Bah oui, oui, s'il vous plaît, oui, faisons ça. Ces enfants ont l'air de faire une gastro mentale, faut faire quelque chose. » Et là, la pub, elle dit « Pour se reconnecter avec ce qui compte vraiment. » Moi, je me dis « Ah, ben voilà, merci la pub. Alors, c'est quoi la proposition qui va sauver les enfants de la catatonie ?» Alors, tout le monde tambour, tout le monde scande dans son fort intérieur. « La solution, la solution, la... » Eh ben... c'est faire de la Skoda en famille. Bon, alors, de temps en temps, j'imagine bien que les gosses sortent de l'habitacle hein, pour regarder un escargot et pipisser aussi, j'imagine, hein, histoire de péter la moyenne à papa. Mais ça, c'est pas dit. Et hop, on retourne dans la voiture, on fait de la Skoda. Là, forcément, grand désarroi de la spectatrice, c'est moi. Et je me dis, vous seriez pas un peu en train de vous payer ma tronche par hasard? Et je pense à un slogan immédiatement de mai 68, hein, c'est la semaine, hein, qui disait « Arrêtez le monde, je veux descendre ». Bon, alors peut-être c'est un peu drama queen, tout de même un peu Sarah Bernard. Sinon, ce que vous pouvez faire, un de ces soirs de lassitude, après une pub Skoda, vous ouvrez Walden de... Henri David Thoreau. Ne vous laissez pas intimider, hein. Ne pensez pas comme moi. Ouh, Walden, œuvre mythique, classique, cérébrale. Je préfère me mettre en position latérale de sécurité et attendre que la mort vienne me prendre. Ouvrez-le, lisez-le, d'une traite ou pas, comme ça vous vient. Ça n'a pas d'importance en vérité. Un petit bout de temps à autre pour vous aérer, pour faire du frais dans l'espace, souvent chahuté par le monde, qu'il y a entre vos deux oreilles. Walden. C'est l'histoire d'un gars qui, en 1845, il a 30 ans, il s'appelle Thoreau donc, et il décide de faire autarcie. À 1,6 km d'une petite ville dans le Massachusetts, qui s'appelle Concord. Le gars est en quête d'autonomie. Alors, pour 2 ans, il va dans les bois. D'où le titre « Walden » ou « La vie dans les bois ». Le but de tout ça, simple, basique, comme dirait Aurel San, gagner sa vie sans aliéner sa liberté, ni exercer une activité incompatible avec son idéal. Et très rapidement, Thoreau écrit « Lorsque pour la première fois, je fixais ma demeure dans les bois. » Alors déjà, vous laissez pas prendre par le mot « demeure », il s'agit d'une cabane. Et alors, c'est tranquillou bilou pour se déconnecter d'Internet, il n'y a pas d'électricité. On est en 45, en 1845, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'animaux de ferme non plus, puisque Thoreau est végétarien. Là, c'est sûr, tu te déconnectes. Le 4 juillet 1845, donc 20 ans avant la guerre de sécession, le jour anniversaire de la déclaration d'indépendance, Thoreau dit que c'est pur hasard s'il a choisi cette date. Moi, je le sens taquin. Thoreau, donc, fait sécession. Et il va se mettre à vivre de manière spartiate. Mais lui, il écrit qu'il s'agit au contraire de, et je le cite, « sucer toute la moelle de la vie, vivre abondamment ». Et là, je maintiens le qualificatif taquin. Il écrit juste après « Je ne lus pas de livre le premier été, je sarclais des haricots ». Taquin quand même, l'intellectuel et enfantin. Parce qu'il y a en Henri David quelque chose de bébé même. Il le dit, il est adorateur de l'aurore, comme tous les bébés et comme tous les Grecs, et pleinement conscient des angoisses de la fin du jour, que craignent particulièrement les bébés. Ainsi, il dit qu'il se réjouit de l'existence des hiboux, et que les hiboux à ses yeux représentent les pensées tout à fait crépusculaires et insatisfaites, propres à tous. Et puis quand même, cette vie dans les bois, vous savez comme dans la chanson que les mômes adorent chanter pour se faire peur, hein, s'y promener alors qu'on sait bien que le loup y est et qu'il met sa culotte, puisque c'est la nuit, et ben Thoreau expérimente même de s'y perdre, et il écrit « Ce n'est que lorsque nous sommes perdus, en d'autres termes, ça n'est que lorsque nous avons perdu le monde, que nous commençons à nous retrouver ». Alors, en cette semaine de célébration de mai 68, on se souvient des slogans sur les murs, sur les trottoirs, dans les chœurs. Et Thoreau, qui était super chasse, n'aurait pas aimé, moi, mon slogan préféré, qui est « Aimez-vous les uns sur les autres ». Mais un autre, que je trouve génial aussi, et qui est « Cache-toi, objet ». Thoreau veut-il par là même régler son compte au rêve américain? Oui, sans doute un peu, parce que c'est clair que pour lui, « greed » n'est pas « good ». Mais moi, je pense qu'au contraire, il a voulu en retrouver la substantifique moelle, l'indépendance. Merci, bisous, merci.
Merci, merci Juliette Arnaud et Yann Arthus Bertrand.
Écrit en 1860, ce livre, c'est fascinant, quoi.
Là, c'est fascinant.
Fascinant.
Yann Arthus Bertrand, donnez-nous les références, tiens.
Alors, moi, je l'ai chez l'imaginaire Gallimard, mais il est de partout, en poche, et donc ça veut dire qu'il n'est pas cher en plus.
D'accord, théoricien de la désobéissance civile.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Fait, il a été en prison pour ça.
Merci Juliette, Yann Arthus Bertrand est avec nous. Et ce week-end, venez le rejoindre au domaine de Longchamp, à la fondation Yann Arthus Bertrand avec toutes les équipes.
Non, c'est pas la fondation Yann Arthus Bertrand.
Ah. C'est la fondation de Good Planet. Voilà, mais bien sûr, évidemment, avec toutes ces équipes, mais vous avez raison, l'eau dans tous ces états, avec des conférences, des projections, des ateliers créatifs, des animations pour les enfants, donc amenez les gamins, et puis des dégustations d'eau à l'aveugle. Je vous dis tout ça.
Ah, ça c'est gratuit, c'est important. Ouais, ouais. J'essaye que cet endroit reste, j'espère qu'on va y arriver, et on vit que les gens peuvent payer en partant, peuvent faire un don s'ils aiment bien l'endroit. Voilà.
C'est pas fondation Good Planet, c'est ce week-end à Longchamp. Troisième sujet avec vous, Yann Arthus Bertrand, depuis que le voyageur partage ses photos de vacances avec la Terre entière, cette fois c'est sûr, la plupart des touristes consomment le monde plutôt qu'ils ne le découvrent. Ou alors s'ils le découvrent une fois qu'ils se connectent à leur compte Instagram aussi, éventuellement, en rentrant de voyage. Et dans le fond, ça fait belle lurette que le verre est dans la pomme, écoutez.
Joseph, qu'est-ce que vous dites de ça ?
Je dis que vous avez un bien joli chapeau.
Bah, le chapeau, la rascasse, 10 livres, un vrai monstre.
Et vous avez posé pour la photographie ?
Eh bien oui, un pareil exploit valait bien d'être immortalisé.
Vous avez posé avec un poisson ?
Qu'il soit content d'avoir pris une belle pièce, je veux bien l'admettre. Mais se faire photographier avec un poisson, quel manque de dignité. De tous les vices, la vanité est décidément le plus ridicule.
Philippe Cobert dans La gloire de mon père, film de Yves Robert. C'est un billet de blog paru sur le Huffington Post qui explique qu'on ne découvre plus le monde, on le consomme, et qui dit qu'un des symptômes de ça, c'est de suffit d'allumer Instagram pour voir le nombre de photos qu'on poste et la manière dont on consomme avidement le monde, le truchement, comme dirait l'autre, du tourisme. Vous êtes d'accord avec ce postulat, vous, Yann Arthus Bertrand, vous, le photographe et le curieux que vous êtes.
Ce qui est incroyable, c'est que la photo s'est transformée. D'ailleurs, les photographes ont énormément de mal à vivre aujourd'hui. Oui. C'est devenu, c'est l'enfer. Comme j'ai des copains photographes qui ont gagné WordPress, qui aujourd'hui sont à la rue, ne vendent plus une photo. L'Internet a transformé quand même. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, je voulais devenir scientifique et je suis arrivé du Kenya avec mes photos de Lyon. J'ai vendu ça à Paris Match. J'ai dit, c'est génial, je gagne bien ma vie. Je vais aller autour du monde photographier les émaux. Et j'ai décidé de devenir photographe et pas de devenir un scientifique. Souvent, on m'appelait, le Figaro Magazine, ou tiens, tu veux pas aller 4 jours à Venise, s'il te plaît, faire des photos. Donc, on partait 4 jours. C'est fini aujourd'hui, les gars, ils tapent sur un ordinateur et les photos arrivent. Donc c'est vrai que la photo, c'est vraiment un métier sinistré, alors que c'est peut-être un des plus beaux métiers du monde.
Et quand on ouvre les réseaux et qu'on voit l'abondance de photos,
etc. Tout le monde est photographe, les photos sont bonnes.
Est-ce que ça conditionne aussi le voyage, finalement ? De se dire, tiens, je vais inonder, je vais... En plus, on est localisé, enfin, c'est-à-dire que tout le monde sait où on est.
Voilà.
Les gars, venez-moi cambrioler, je suis pas chez moi, quoi.
Et sur ton iPhone, ou tu cherches voiture et toutes les photos de voiture que tu as faites depuis 4 ans apparaissent, quoi. C'est complètement incroyable. Et en même temps, je suis étonné par la qualité des photos qui sont faites par les appareils.
Mais pour vous, c'est dangereux les selfies, parce que sur l'hélicoptère, faites gaffe, tenez-vous bien.
Et vous avez été pilote de montgolfière au Kenya où vous baladiez les touristes.
C'est comme ça que j'ai gagné ma vie, pour payer mes études sur les lions. On a passé 3 ans avec ma femme Anne, tous les jours à suivre une famille de lions.
Il fallait bien vivre.
Et pour les reconnaître, c'est vrai qu'on reconnaît les lions, on compte les poils de moustache. Il y a 4 lignes de moustache, c'est comme ça qu'on les reconnaît, c'est une carte d'identité des lions.
Il faut être drôlement prêt quand même.
Les lions. Mais ce qui est formidable dans ces pays en Afrique, si vous avez la chance d'être dans une réserve, c'est que les animaux n'ont pas peur de l'homme. Alors il y a des lions qui dorment, vous avez votre voiture, vous arrêtez à 2 mètres et ils vous laissent faire. Et un jour, je me souviens, je m'étais endormi, j'ouvre la portière pour aller faire pipi et je marche sur une lionne qui était une lionne sauvage, qui était endormie à l'ombre de ma voiture. Elle part en poussant un rugissement. Moi, j'ai la peur de ma vie. Pendant 5 minutes, je ne peux plus parler.
Comptez votre moustache.
Et les animaux, je rêve d'un endroit où il n'y a plus de chasse, où les cerfs. D'ailleurs, j'avais proposé à la ville de Paris qu'on pourrait mettre des cerfs dans le bois de Boulogne. J'adorerais qu'il y ait des animaux sauvages. Ouais. Et voilà, comme ça se fait en Angleterre.
Rire.
C'est un artiste Bertrand.
À Lyon, au parc de la Tête d'Or, vous avez les daims et les cerfs. Voilà. Et j'aimerais qu'il y ait la même chose dans les bois de Boulogne.
Et si on comptait les poils de sa moustache à lui?
Il n'y en a plus sur le caillou non plus. Ouais. Frédéric Fromet derrière vous, il chante
Bonsoir.
L'actualité. De quoi allez-vous nous chanter, Fred?
Eh bien, cette semaine, nous avons donc appris que les oiseaux disparaissaient des campagnes françaises à une vitesse vertigineuse. Quelle indignité! Ça fait pas rire les oiseaux, ça fait pas rire les corneilles. Bye bye les étourneaux, les mésanges c'est pareil. Ça fait pas rire les oiseaux, les perdrix, les tourterelles. On est tellement crado qu'on fait de la terre une poubelle. Ça fait pas rire les oiseaux. Oh, 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 pas rire les oiseaux. Oh, 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 une chanson d'adieu, c'est comme un traitement au nitrate. Allez, vas-y, va un lieu que je te pulvérise, que je te sulfate. Une chanson d'adieu, c'est le poison dans la campagne. Le comble serait que les oiseaux s'exilent à Paname. Si ta vie est devenue morbide, pleine de pesticides, de néonicotinoïdes. Il y a toujours une mélodie pour te dire que c'est cuit-cuit. Allez, bats un peu des ailes, essaye un peu plus fort. C'est beau une ritournelle qu'on reprend pour ta mort. Ça fait pas rire les oiseaux, ça les fait pas rire du tout. Ça nique les corbeaux, ça flingue les petits piou-piou. Ça fait pas rire les oiseaux, y'en a pas un qui s'esclaffe. Déjà qu'ils avaient le cœur gros à la mort d'Edith Piaf. Ça fait pas rire les oiseaux, oh, oh, pas rire les oiseaux. Oh, oh, au moins nous n'aurons plus jamais un appétit de moineau. Nous ne bavarderons plus comme la pie qui parlait trop. Au moins on ne pourra plus nous prendre pour des pigeons. Mais nous ne serons plus jamais gais comme des pinsons. Si tu n'as plus un insecte à te mettre dans le bec, si jamais l'homme te débecte, si petit à petit on te défait ton nid. Allez, bouge un peu tes plumes, fais tes dernières vocalises avant que l'on te fume pour un caca sur le pare-brise. Ça fait pas rire les oiseaux, ça fait pas rire les abeilles. On s'en bat le jabot tant que brille le soleil. Ça fait pas rire les oiseaux, ça fait pas rire les alouettes. On vole tellement pas haut qu'on saccage notre planète. Ça fait mourir les oiseaux, oh, 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 mourir les oiseaux, oh, 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 mourir les oiseaux.
Merci Frédéric Fromet.
La compagnie Fromet.
Qui appuie
la... C'est triste comme chanson.
Oui,
oui, oui.
Mais
oui.
Comme tout ce livre.
On a du mal à rire là-dessus.
Vous avez du mal à rire là-dessus.
Complètement, oui, complètement, parce que c'est épouvantable.
Et pour, pour...
J'ai de l'émotion en le disant, vous voyez.
Ouais, je comprends, oui, oui. Et pour nous, c'est notre façon, et je suis sûre chez vous aussi, chers auditeurs, que une manière pour, ouais, pour nous et d'autres, c'est d'appuyer là où ça fait mal et d'essayer d'en rire, parce que c'est... Ben, c'est tout... On va pas dire que c'est tout ce qui nous reste, puisqu'il nous reste l'action. Ouais. Déjà, il y a cette préface du livre « Ça chauffe pour la planète », livre paru chez Gallimard, Cartooning for Peace, avec tous les dessinateurs.
Et ça aide, ouais, dès que vous achetez un livre, exactement, vous aidez... vous faites plus de liberté pour les gens qui font des dessins, pour la liberté de la presse. C'est
et
très
puis
important.
On attend Woman, votre prochain film co-réalisé avec Anastasia Mikova. Et puis ce week-end, donc L'eau dans tous les états au domaine de Longchamp avec la fondation Good Planet.
Je serai là pour vous accueillir.
Ah, ben voilà.
Est-ce que ce ne serait pas le grand soir, Vanunakia,
si,
ce soir?
Si, je vous retrouve ce soir dans quelques heures, à 20h, 20h-22h avec Laure Adler.
Il y aura les invités sûr. Catherine Siné, Gabi Cohn-Bendit, Thomas Bidguin et on parlera de mai 68.
Exactement,
toute la soirée.
Une âgée, ça va finir en grand soir. C'est ce soir. Merci, merci à tous.
Je peux rajouter quelque chose.
Vite. Allez-y.
Si vous voulez faire quelque chose d'important, il faut arrêter de consommer de la viande industrielle. Très important.
Guillaume Meurice vous embrasse de là où il est.
Non, chaque année, on déforeste la taille de la Belgique en forêt tropicale pour faire des céréales qui vont nourrir les animaux. Et là-dessus, après, il y a les pesticides, il y a tout ce qui va se passer derrière. Il faut faire attention à ça et mangeons de la viande faite par des gens qui la produisent bien. Voilà, ça c'est important. Et dont les paysans qui font du bon boulot.
Merci Yann Arthus-Bertrand, on entend votre message. Merci à tout le monde, merci Isabelle Sorante, merci Christine Gonzalez, Juliette Arnaud, Alex. Voici le mot de la fin à la réaction du pouvoir en voyant les fonctionnaires et les cheminots battre le pavé.
Maintenant, ils viennent jusque dans nos bras, écraser nos fils et nos compagnes.